Je joins à Québec Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Monsieur Robitaille, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ben ça va bien, toi-même.
Ça irait mieux si on avait une bonne ligne, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme disait Voltaire, bien
sûr.
Dans
ton cochon, pareil.
OK, parfait. Bon, alors...
contemple ta collection de vestons.
Bon. Arrête les boss, écoute. Bon.
OK.
Les jeunes libéraux ont étalé leur liste de priorités ce matin. Ils veulent pas d'examen trop difficile. C'est dur, les examens à l'université.
Ben oui, on devient momoun un peu, hein, j'ai l'impression. Quand on parle à des gens qui sont dans les relations de travail aujourd'hui, on se rend compte de la présence beaucoup plus grande de l'anxiété, par exemple, chez les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on nomme davantage ou c'est un phénomène qui est en croissance? Moi, c'est la question que je me pose là. Mais c'est sûr, moi, je connais des gens qui sont responsables des ressources humaines qui me disent, écoute, c'est fou, là. Les problèmes d'anxiété, ils ont jamais vu ça, là. Et c'est la même chose à l'université. C'est rendu que tu as besoin, quand tu fais un examen comme professeur, de 2-3 salles, tu sais. Parce que t'as des gens qui doivent être à part et tout ça pour toutes sortes de problèmes qu'on diagnostique, puis qui probablement que c'est qu'on est plein de bonne volonté quand on le fait. Alors est-ce que c'est à ça que veulent se faire écho les jeunes libéraux, ces phénomènes-là qui évidemment transforment le monde de l'éducation, peut-être?
Ouais,
je sais pas, tu lui as parlé tantôt. Au président des jeunes libéraux,
ouais.
Stéphane Stril, tu as surtout parlé d'appropriation culturelle, mais tu as parlé de ça aussi, j'imagine.
Oui, évidemment. Mais il reste que les examens à l'université, ça a toujours été difficile. Les examens en général, c'est stressant. Parce qu'ils disent que ça ne correspond pas à la réalité, en ce sens que c'est pas vrai que quand, par exemple, tu arrives sur le marché du travail, t'es soumis au même genre de stress que ce qu'on t'impose dans une salle fermée quand on te fait passer un examen. Mais c'est parce que...
Je sais pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ben moi, c'est surtout que quand on passe un examen, quand on fait passer un examen, M. Stril nous disait tout à l'heure, oui, mais quand on travaille, là, on a accès à un paquet de ressources pour vérifier des informations. Oui, c'est vrai, mais quand t'es en formation et que tu subis un examen, c'est pour vérifier ce que t'as retenu dans ta tête. Il me semble que ça,
oui. Puis,
c'est important
c'est
encore de nos jours.
C'est drôle comme on distingue aussi les affaires plutôt intellectuelles que, mettons, la musique ou le sport ou les mathématiques. C'est sûr qu'il faut apprendre nos tables de multiplication par cœur, là.
C'est
un peu artificiel d'apprendre ça, mais ça nous sert pour le reste de notre vie. Si on avait toujours la béquille qui nous permet de ne pas faire des calculs mentaux, ben il me semble que notre vie serait un peu plus compliquée. Puis même si on en a partout aujourd'hui des béquilles, ben c'est bon de savoir calculer vite dans sa tête. C'est sûr que des examens, c'est toujours un peu artificiel, mais en même temps, c'est nécessaire d'avoir un bagage, de se constituer. Alors, de toujours dire, non, les examens, c'est artificiel. Nous, dans le milieu du travail, on a accès à toutes sortes de choses. Je trouve que c'est court, et ça nous empêche de faire ce que Montaigne appelait des têtes bien faites. Mm. Hein? C'est sûr qu'une tête bien faite, là, c'est aussi une tête, c'est une tête qui était pleine de connaissances quand même, mais c'est une tête qui est capable de solliciter et de mobiliser ces connaissances-là au moment de l'examen.
Mais dans la réforme de la façon d'enseigner, la réforme d'éducation, ce qu'on a privilégié depuis quelques années, c'est davantage, c'est pas la connaissance, mais la compétence. Alors, ce qu'on nous disait, là, à l'époque, j'enseignais au niveau collégial, puis on nous avait fait changer la façon de faire les examens, tout ça. Et on nous disait, dorénavant, vous ne devez pas essayer de tester ce qu'ils ont retenu, mais ce qu'ils savent faire. Mais il me semble qu'il y a un peu des deux dedans. Ça va ensemble, tu sais.
Ça va ensemble.
Ouais.
Tu sais, imagine, tu fais passer un examen à un musicien. pour ça que j'évoquais la musique. Tantôt, ouais. Je vais être plus précis. Là. C'est sûr que des gammes, c'est artificiel de faire des gammes. Là. Mais à un moment donné, si tu veux bien jouer de la musique sans avoir recours à ton ordinateur puis ton sampling à côté, ben il faut que tu les fasses. C'est un peu la même chose, il me semble, avec les examens à l'université. Puis, ouais. Et même, il y a des courants actuellement qui reviennent, des courants pédagogiques, j'entends, qui reviennent qui revalorisent le par cœur. Je pense à Normand Baillargeon, par exemple, qui a enseigné longtemps à l'UQAM dans ce domaine-là, dans le domaine des sciences de l'éducation, qui le souligne. Puis, c'est bon d'apprendre des choses par cœur aussi. Comment bien parler une langue sans savoir
les mots,
des phrases par cœur, tu sais? Non, mais les mots, tu ris, mais c'est vrai que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime. Il y a des choses de l'éducation française qui me déplaisent, mais il y a des choses que j'aime. Tu sais, à la petite école, ils vont apprendre toutes sortes de poèmes par cœur, des comptines. C'est la meilleure, c'est une excellente façon, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une excellente façon de bien maîtriser et bien intégrer oui. la langue française, puis n'importe quelle langue, je dirais.
Alors, on propose, c'est le point, dans l'axe 1, le point 4, mettre de l'avant des méthodes d'évaluation plus flexibles, telles que les examens maison à livre ouvert et les travaux avec une date de remise flexible.
Mais voyons.
Encore là, tu sais, c'est... Quand on donne... Moi, c'est souvent ce que je disais à mes étudiants à l'époque en journalisme, quand je leur disais, par exemple, « Mais là, vous avez un travail à me remettre telle journée. Vous avez une heure de tomber. Puis l'heure de tomber, c'est dans deux semaines à telle date. » Puis là, on me disait, « Ah, mais ouais, mais c'est pas beaucoup, etc. » Mais je l'attendais d'être dans le milieu du travail. Vous allez voir que les heures de tomber, c'est pas mal à tous les jours. Et puis quand tu fais de la radio, c'est pas mal à tous les heures, tu sais.
Ton émission de radio, tu pourrais dire au patron à Cogeco, « Ah, ben là, je veux que ça soit flexible. »
Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais avoir un horaire flexible. Oui. L'émission du midi, j'aimerais ça qu'elle commence à 6 heures.
Ça marche pas, ça.
Non, je suis pas sûr. En tout cas, mais il reste qu'ils vont, ils vont l'étudier. Ils vont discuter de ça au cours de...
Je sais pas si le ministre Proulx a réagi à ça, mais en tout cas, samedi, on va sûrement en parler. Moi, je vais être là. Je me dis que toi aussi.
Non, je serai en vacances. Je serai sur la côte ouest canadienne.
Ah, tiens, la côte ouest.
Je sais.
As-tu payé tes crédits carbone?
Mes crédits carbone, je ne le paierai pas. 54$ l'aller, 54$ retour, 108$ de plus sur un billet qui coûte déjà presque plus cher, en fait, que d'aller en Europe. Il y a des bonnes chances que je ne le paie pas volontairement, malheureusement.
OK. T'es pas comme la ministre McKenna.
Non, je ne suis pas la ministre McKenna.
Oui, t'es comme la ministre McKenna parce que tu paies ses crédits carbone à travers tes impôts.
Exactement, voilà. Merci de me sauver là-dessus. Bon, OK, on s'en va où avec ça, là? On va...
Non, c'est toi qui mène, mon âme.
OK, bon, alors, le go...
C'est pas une chronique flexible.
Non, c'est ça, exactement. Bon, François Legault appuie la demande au gouvernement de laisser les Québécois décider.
Oui, c'est le projet Appuyat, et c'est toute une information qu'Alexandre Robillard du journal a eue ce matin. C'est-à-dire que Hydro-Québec, dans une lettre, puis là, c'est Éric Martel lui-même, le président, le PDG d'Hydro-Québec, qui écrit aux Inuits qu'il doute que la nation Inuit aura sa juste part des profits dans un projet éolien difficilement recommandable. T'en as déjà parlé de ce projet éolien-là.
J'en ai parlé il y a à peu près un mois de ça. Ouais.
Tu avais interviewé Pierre Moreau, si je ne m'abuse. Donc, c'est un gros projet éolien dans lequel Hydro-Québec ne ferait qu'acheter de l'électricité. C'est un privé, Boralex, avec des Inuits. Il y a 9 communautés Inuits. Il y en a 6 qui sont impliqués. Donc, il y en a 3 de côté, d'après ce que j'ai compris, qui sont entendus avec la firme Boralex pour faire un espèce de parc éolien dans lequel il y aurait une cinquantaine de turbines ou de moulins, si tu veux, d'éoliennes. Et donc, là, Hydro-Québec s'engagerait à acheter de l'électricité à ce groupe-là à un prix fixe dans un contrat de gré à gré pour 25 ans.
Ouais.
C'est un peu ce qu'on a fait ailleurs, remarque. Mais des contrats de gré à gré dans l'éolien, là, je pense qu'il y en a juste un autre au Québec. Donc, c'est un projet coûteux. On parle d'1,3 milliard jusqu'à 2 milliards de pertes, dit Éric Martel dans sa lettre aux Inuits. Lui, il dit, j'aimerais avoir plus de détails sur le projet parce que moi, je dois recommander ou ne pas recommander ce projet-là au conseil d'administration qui ultimement tranche pour toutes sortes de raisons techniques là, dans lesquelles j'entrerai pas, Louis. Le gouvernement peut pas décréter cette affaire-là. Mais imagine-toi donc que le gouvernement, Pierre Moreau et Philippe Couillard en tête, et Pierre Arcan aussi, qui est un ancien ministre des Ressources naturelles, est très, très enclin à appuyer ce projet-là. Il pousse Hydro-Québec à l'appuyer. Oui. Puis il y a beaucoup... Là, ce dont on se rend compte, là, c'est que Hydro-Québec veut rien savoir. Et pourquoi? Parce que ce type de développement régional-là, parce qu'il faut le savoir, là, Hydro-Québec n'a pas besoin de cette électricité-là. On est déjà en super surplus d'électricité. On jette de l'eau par-dessus les barrages. Donc, c'est un peu... Hydro-Québec dit que ça n'a pas de sens de continuer à faire ce type de projet-là. Déjà, la vérificatrice générale, je crois que c'est au mois de mai, a déposé dans son rapport des études qui démontrent que depuis 10 ans, ça a coûté là, plus de 2 milliards aux Québécois, ce type de projet éolien-là, qui est surtout du développement régional. Alors, est-ce qu'on veut continuer dans cette lignée-là? Hydro-Québec dit non, le gouvernement dit oui et aimerait déjà l'annoncer. Et c'était censé être aujourd'hui l'annonce officielle, là, mais le conseil d'administration d'Hydro-Québec ne s'est pas encore penché là-dessus, puis le gouvernement ne peut pas décréter, donc ils attendent après, ils ont annulé, d'après ce que j'ai compris, leur conférence de presse. Alors, face à ce projet-là, François Legault, qui a toujours dénoncé ce projet-là, en tout cas depuis là, un mois, il dit que c'est un projet coûteux, inutile, et il dit que Philippe Couillard, en insistant encore, parce qu'encore ce matin, là, Philippe Couillard a dit qu'il appuyait ce projet-là, il dit qu'il a peur de soumettre cet enjeu-là aux électeurs. C'est pas rien, là. Ouais. C'est 1,3 milliard.
C'est ça, on veut attacher Hydro-Québec avant l'élection, évidemment, là. Puis on comprend pas trop pourquoi, quel est le but derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont si pressés de faire ça? On comprend que eux autres y tiennent. Donc, s'ils attendent l'issue de l'élection, ça se pourrait qu'ils soient pas capables de le faire parce que ça se pourrait qu'ils soient plus là. Alors là,
il y a toutes sortes d'hypothèses sur lesquelles les gens là, se penchent pour comprendre l'obstination du gouvernement. Est-ce que c'est parce que le gouvernement veut faire comme avec les CRI? Tu sais, les CRI, ils sont réunis autour de certains projets hydroélectriques, puis ça leur a permis de se structurer. Puis aujourd'hui, c'est facile d'avoir affaire aux CRI. On sait, c'est-à-dire, c'est assez facile de faire affaire avec les CRI, ça va souvent bien avec les CRI, parce qu'on sait qui est l'interlocuteur. Les Inuits sont 9 communautés réparties, assez jalouses chacune de leur autonomie. Est-ce que, moi, on m'explique que ça serait une raison. Et évidemment, c'est du développement régional. Puis là, il y a d'autres qui disent, écoutez, c'est Boralex qui... Va tout ramasser. Les Inuits là-dedans sont une sorte de façade. Et c'est, écoute, cet argument-là que je trouvais très controversé, Louis, on le trouve dans la lettre d'Éric Martel.
Oui.
La lettre d'Éric Martel aux Inuits, il demande aux Inuits, êtes-vous bien sûr que vous allez vraiment profiter de ce projet-là? C'est pas rien. Et ça remet totalement en question l'argumentaire du gouvernement.
Ouais. Et moi, ce que j'entends, c'est que, bon, comme on ne peut pas l'imposer par décret, il faut absolument que l'entente soit signée par Hydro-Québec et que la direction d'Hydro-Québec ne veut pas, là, tu le vois dans la lettre d'Éric Martel, bien là, il y aurait un lobbying très, très important qui se fait en ce moment auprès des membres du conseil d'administration. Parce que si le conseil d'administration...
Oui, il faut bien expliquer aux gens, là, Il y a deux présidents, d'une certaine façon.
Ben oui, tu as le président
du conseil d'administration,
voilà,
qui est M. Penner, qui a été nommé par M. Couillard en 2014. Habituellement, un conseil d'administration, c'est là comme un groupe qui donne des orientations à une entreprise.
Ouais.
Puis, tu as le PDG qui, lui, s'occupe vraiment des opérations et tout. Je veux dire,
le PDG, ce qu'il fait, c'est qu'il répond aux commandes, aux orientations du conseil d'administration. Alors, si le conseil d'administration décide, tu vas faire ça, Ben normalement, le PDG, sa job, c'est de livrer, finalement, l'entente.
C'est ça. Tu vois? Et là, ce qui est spectaculaire, c'est qu'on a le conseil d'administration qui n'arrive pas à se prononcer. On peut deviner que M. Penner est très favorable au projet parce que lui, il est proche de M. Couillard. Hein?
Ouais.
M. Penner, il a été même dans la campagne à la direction de Philippe Couillard en 2013. Il était proche de M. Couillard. Donc, t'as Éric Martel qui, lui, dit ben, pour le bien-être de l'Hydro-Québec, là, pour l'avenir, c'est pas un bon projet. Puis on a le conseil d'administration qui, ouais, je sais pas trop ce qu'il en pense. Puis on a le gouvernement qui pousse, ouais, pour que le conseil d'administration tranche avant les élections. Écoute, c'est un bras de fer incroyable, moi, que j'ai rarement vu à Hydro-Québec, mais très intéressant. Puis plein de questions très intéressantes, ouais, sur notre navire amiral.
Toujours avec Antoine Robitaille. Bonjour, M. Robitaille.
Mais rebonjour.
Ah, mon Dieu, mais le son
micro
est bien meilleur. C'est incroyable.
Bien sûr. Car nous parlerons de l'Arabie saoudite.
Bien, voilà. Et je ne sais pas si tu as entendu mon entrevue avec M. Fatali tout à l'heure, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa.
Oui. Non, je ne l'ai pas entendu, malheureusement.
Lui, ce qu'il dit, là, il dit que, parce que je lui parlais des États-Unis qui ne vont pas aider le Canada, finalement, dans sa lutte contre l'Arabie saoudite.
Ben oui, puis le New York Times qui déplore cet abandon-là du Canada par les États-Unis. Oui,
mais lui, sa théorie, c'est que l'Arabie saoudite se serait jamais engagée dans une guerre diplomatique avec le Canada sans l'appui et même l'autorisation des États-Unis.
Ben, c'est très, très probable, hein? Et d'ailleurs, le New York Times se déchaîne en éditorial contre la Maison-Blanche,
ouais,
et dit que la seule réaction à ce qui est arrivé au Canada, ça a été de mettre dos à dos le Canada et l'Arabie saoudite, deux alliés. Hein? Both allies.
Ouais.
C'est ce qui est écrit dans l'éditorial. On se scandalise de cet abandon-là, carrément, du Canada par les États-Unis. Mais ces temps-ci, les États-Unis, là, ils ont un président qui trippe sur les régimes autoritaires.
Ah oui, tout à fait. Mais...
parce que les gens se tiennent debout, ferment leur bouche et écoutent leur leader.
Ouais.
C'est ce que Trump avait dit du leader de la Corée du Nord.
Et ce que dit Fatali, entre autres, il dit même que l'administration Bush pourrait se servir de l'Arabie saoudite. Bush, Trump, excuse-moi.
Oui. Il était proche des Saoudiens aussi.
Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Bush. Il y a un nom comme ça qui m'est...
T'accuses ton âge, mon ami.
Peut-être. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que l'administration Trump se servirait même de l'Arabie saoudite pour affaiblir le Canada sur le plan international et donc en profiter eux-mêmes pour les négociations, entre autres, de l'ALENA.
Oui, parce que la réaction est vraiment déchaînée de la part de l'Arabie saoudite, là. Tu as dû en parler au début de ton entrevue, mais c'est le dollar canadien, ouais, qui s'en trouve affecté actuellement.
Exact.
Parce que le royaume saoudien aurait, là, c'est tous les mots sont au conditionnel dans les dépêches qu'on a obtenues, sommé leur gestionnaire de fonds de larguer tous les investissements canadiens. Ça a déjà eu un effet, ouais, sur le dollar canadien. On fait une relation de cause à effet, d'ailleurs, dans plusieurs textes. Notamment le Financial Times. Donc, c'est vraiment une réaction. Mais comment répondre à ça? C'est la grande question. Que se pose aussi l'opposition officielle à Ottawa?
Ouais.
Ça fait combien de jours, moi, que je demande une réaction? Puis je l'ai obtenue ce matin.
Ça a pris six jours, imagine.
Je te communiquais ma...
Ouais.
Mon impatience hier, je disais, voyons, comment ça fait que l'opposition officielle conservatrice à Ottawa répond pas à cette affaire-là, n'a pas rien à dire, soit appuyer le gouvernement, soit le critiquer.
Mm-hmm.
Ben, ce matin, ils ont fait les deux, justement. Et c'est le critique Erin O'Toole qui a surtout déploré l'utilisation de Twitter par le gouvernement canadien. Ce qui est drôle, Louis, c'est que lui-même a publié sa réponse ou sa réaction sur Twitter. Alors, lui, il a dénoncé la diplomatie de Twitter. Alors, je lis la phrase. « L'écart entre nos pays découle de l'utilisation de Twitter comme substitut à la diplomatie du gouvernement Trudeau. Une diplomatie sérieuse exige des efforts. Le premier ministre et la ministre devraient défendre face à face les problèmes et non pas par hashtag interposé.
Ben non, mais ils n'ont pas fait ça sur Twitter. Là. Il y a une déclaration de Madame Freeland sur Twitter, mais c'est la première réaction, c'était pas ça. C'était une lettre qui a été envoyée au gouvernement de l'Arabie Saoudite. Là. Ça s'est pas fait juste sur Twitter.
On dit que ça s'est fait sur Twitter, effectivement. Non, je te dis.
Ah oui?
Oui. Puis, c'est ce qui est drôle, c'est qu'eux-mêmes, leur réaction aux conservateurs,
ouais.
Elle s'est faite sur six tweets différents sur okay. Twitter.
Bon.
Alors, j'ai reçu ça ce matin, c'est effectivement de Matthew Conway, là, le porte-parole, l'agent de communication des conservateurs, qui m'a bien écrit que c'était sur Twitter que la réaction conservatrice avait eu lieu. Mais peut-être que c'est bon pour les réactions des oppositions, mais insiste-t-il, puis je trouve que c'est une question intéressante, c'est quoi la diplomatie à l'ère de Twitter? Est-ce que c'est une bonne chose? Mais en même temps, ça devient incontournable. Quand le président des États-Unis fait une bonne partie de sa politique sur Twitter, réagit au lieu d'envoyer des communiqués ou des lettres, c'est une question qui se pose. Mais est-ce que c'est réducteur, sans doute, de faire de la diplomatie sur Twitter, mais est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui alors qu'il y a tant de monde qui l'utilise? En tout cas, les conservateurs, eux, ils rappellent qu'il y a eu des efforts personnels, par exemple, du ministre Byrd, qui ont contribué, par exemple, à la libération du cinéaste canadien John Grayson. Moi, je ne me souviens pas de cette affaire-là, notamment en Égypte à ce moment-là. Et donc, on dit que c'est des efforts personnels et non pas les tweets. Il est temps que le gouvernement Trudeau soit sérieux et outrepasse. Je ne sais pas. En tout cas, les photos et les tweets, écrivent les conservateurs.
Bon. Parle-moi de Jagmeet Singh qui pourrait, en fait, va-t-il être candidat dans une partielle?
Ben, il semble bien que oui. Ouais. C'est sûr que des chefs de parti comme ça, élus récemment, souvent prennent leur temps avant d'arriver au Parlement. Singh est là depuis octobre 2017. Peut-être certains pourraient dire qu'il pourrait attendre encore, mais il y a plusieurs difficultés au nouveau Parti démocratique actuellement. Les chiffres sont pas bons non plus. Alors, il annoncerait donc aujourd'hui ou demain là, qu'il briguerait des suffrages dans la circonscription de Burnaby Sud en Colombie-Britannique. Tu connais ça, toi? Tu t'en vas là, toi?
Oui, t'es bien tannant.
C'est ce que mes espions m'ont dit.
Oui, je sais. Bon.
Et tu pourrais aller à l'annonce de Jagmeet Singh?
Ah, je pourrais, mais j'irai pas.
Faut que tu te reposes.
Exactement. T'as tout compris. Et c'est ce que je compte faire, en effet.
Parfait. Au revoir.
Au revoir.